l'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Albert Lutz, membre du conseil d'administration de l'association Les Enfants de Tchernobyl, une association qui œuvre depuis 1993 en faveur des populations russes et ukrainiennes de la région de Tchernobyl en accueillant des enfants ici en Alsace dont les organismes sont touchés par la radioactivité. L'idée, c'est qu'avec une alimentation saine, durant leur séjour de 3 semaines, donc je le disais ici en Alsace, les taux de césium-137 baissent nettement. Alors aujourd'hui, le conflit, l'invasion russe a changé la donne et nous allons en parler. Albert Lutz, bonjour.
Bonjour.
Tchernobyl, en Ukraine, en 1986, un accident nucléaire majeur dont aujourd'hui on mesure encore les conséquences. Alors comment, en 1993, l'association s'est créée et comment ces chiffres de contamination sont parvenus aux fondateurs de l'association?
Alors l'association s'est créée par un mouvement, entre guillemets, enfin plus spontané de quelques personnes qui ont été sensibilisées fortement par justement les conséquences de l'accident et sur le fait que beaucoup de gens continuent à vivre, et encore aujourd'hui, dans des zones qui sont contaminées, qui le sont toujours aujourd'hui, et dans lesquelles, normalement, personne ne devrait habiter. Et donc, ces quelques personnes ont commencé un petit peu en bricolant, entre guillemets, pour essayer de faire des choses, et très rapidement a été créée l'association, parce que dès qu'on veut faire quelque chose de sérieux, il faut une structure, il faut des moyens, et donc le mouvement a démarré comme ça. Après, très rapidement, il y a eu l'association avec des scientifiques qui permettait justement de parler de choses concrètes, donc il y a eu de nombreuses campagnes de mesures qui ont été faites sur place par des scientifiques, amis de l'association, et ce qui permet de valider la réalité et pas d'être juste sur un mythe en disant « bon, il y a eu un accident ». Mais là, on est sur des chiffres réels, avec des mesures réelles et des mesures qui ont donné des choses surprenantes sur comment les choses se sont propagées. Bon, on sait que ça s'est arrêté à la frontière alsacienne, semble-t-il, à l'époque. Mais bon, la réalité n'est pas la même. Mais sur place, que ce soit donc côté ukrainien autour de la centrale et aussi en Russie au nord donc de la centrale où les vents n'ont pas fait ce que le Kremlin voulait à l'époque et donc il y a eu une grosse contamination. Il y a une ville au sud de la Russie, donc au nord de Tchernobyl, qui est tout aussi contaminée, alors qu'elle est à, je sais plus, 200 kilomètres de la centrale, mais elle est tout aussi contaminée que à 10 kilomètres de la centrale.
Donc ce sont les sols qui sont mesurés, donc tout ce qu'on peut ramasser, les champignons ou faire pousser les maraîchers, sont touchés par cette radioactivité, ainsi que les poissons. Et comme ce sont des populations pauvres qui vivent du fruit de leur petite agriculture, ils sont doublement touchés.
Exactement. La région de Tchernobyl, autour de Tchernobyl, c'est une zone rurale, mais rurale très pauvre. Hein. Et la plupart des gens qui vivent là-bas certains ont un travail, d'autres pas trop, et ils vivent notamment de leur potager, de la chasse, de la cueillette. Et effectivement, toute cette contamination, elle est dans le sol. De la radiation, il y en a plus. Ça, c'est la radiation aussi quand on va très très proche de la centrale. Mais sinon, il y a pas de problème.
C'est
pas
un problème. Ce sont des zones où personne n'habite.
Voilà. Après, ça se transfère via la nourriture, via tout ce que les gens cultivent, ramassent, chassent, élèvent. Tout ça, c'est contaminé progressivement. Donc, c'est dans la terre. Donc, chaque fois qu'on remue la terre, on remet ça en route. Et ce qui a eu lieu notamment en fin février 2022 et début mars 2022, quand, donc, tout au début du conflit, Il y a eu deux points d'entrée en Ukraine, donc par l'est, le sud-est, donc c'est la zone qui est toujours très gravement en conflit, et par le nord via la Biélorussie, où les troupes russes sont entrées par la Biélorussie. Et donc elles sont directement arrivées sur la zone dans laquelle nous intervenons depuis 30 ans. Et il y a eu des combats, il y a eu des bombardements, on a entendu parler des incendies autour de Tchernobyl, etc. Tout ça, ça remet en mouvement toute la contamination, parce que bah, les bombes, ça soulève de la poussière, ça remonte dans l'air, alors que c'était un petit peu incrusté éventuellement. Les incendies font brûler du bois qui est contaminé, parce que dans les forêts, les arbres, c'est des pompes à césium, enfin voilà. Et donc, quand ça brûle, bah, ça repart en l'air, et donc on a remis une couche de contamination sur ce qui existait et qui commençait tout doucement à se tasser au bout de 30 ans, mais on était encore, enfin voilà, les dernières mesures qui ont été faites il y a quelques années, on n'en a pas fait récemment évidemment, mais montrent que c'est encore très très contaminé.
Quoi. D'où l'importance aujourd'hui d'accueillir des enfants ici en Alsace. Alors, n'accueillez plus d'enfants russes, ça vous le regrettez parce que les enfants restent des enfants, mais c'est compliqué aujourd'hui au niveau de la diplomatie et d'accueillir des enfants russes, c'est juste
impossible. Ah, c'est juste impossible pour l'instant, c'est juste impossible. Non, non, les enfants sont évidemment pas du tout en cause, et si on pouvait le faire, on continuerait d'accueillir des enfants russes. Les enfants sont pas du tout en cause. C'est juste que c'est aujourd'hui techniquement, diplomatiquement, enfin, c'est impossible, quoi.
Alors, voilà. Les familles ukrainiennes, aujourd'hui, à qui vous venez en aide en apportant des colis alimentaires, des colis sanitaires, vous continuez, vous devrez sur place, mais vous continuez également d'organiser, comme chaque année, des séjours en Alsace de 3 semaines de ces enfants. Alors, on parlait de l'alimentation qui pollue les organismes. Aujourd'hui, on sait qu'avec 3 semaines d'alimentation saine, ici en Alsace, ça permet de nettoyer les organismes et d'alléger ce fameux taux de césium 137.
Voilà, exactement. Et c'est des choses qui ont, pareil, qui sont documentées, constatées, mesurées. L'an dernier, on a refait un premier accueil suite à une interruption de 3 ans. Donc, il y avait les 2 années de Covid où tout était bloqué. Et en 2022, début de la guerre, tout était prêt. Hein. On avait déjà tout préparé pour l'accueil de l'été 2022. Et bon, patatras, tout est tombé à l'eau, quoi. Mais avant le Covid, les enfants était systématiquement, avant de venir, on mesurait le taux de césium chez les enfants, et également au retour. Et c'est pour ça qu'on peut être affirmatif et catégorique sur le bénéfice d'un séjour comme ça pour un enfant. Aussi surprenant que ça paraisse, en 3 semaines, on a des baisses entre 20 et 50% du taux de césium chez les enfants. Et donc, ça prouve bien que la nourriture, principalement, bon, l'air un petit peu aussi, mais comme, bon, c'est surtout la nourriture qui est déterminant et à quel point ça peut être utile. Alors après, évidemment, ça se rajoute aussi le fait que bah, c'est des vacances. C'est des enfants de familles défavorisées qui vivent dans des petits villages. Donc on aide depuis le début. On a une vingtaine de villages dans lesquels on intervient. Donc c'est des enfants de familles défavorisées de ces villages qui n'ont pas l'occasion de partir en vacances. Évidemment. Hein. Voilà, donc il y a aussi ce côté vacances qui se rajoute.
Des enfants qui, pour la première fois, souvent prennent l'avion pour venir ici en Alsace, c'est magique. Hein.
Absolument. Bon, là depuis la guerre, enfin, malheureusement, ils prennent plus l'avion. Le transport, c'est très beaucoup compliqué. C'est-à-dire qu'on est obligé de faire ça en bus. Il n'y a plus d'avions qui partent d'Ukraine.
Donc, ici en Alsace, vous cherchez des familles d'accueil. Et des financements, donc on va en parler dans un deuxième temps, les fameux œufs ukrainiens, les pissenkis. Mais dans un premier temps, vous cherchez, vous, des familles d'accueil pour cet été là qui arrive.
Exactement, il nous faudrait encore une petite dizaine de familles d'accueil. Donc il y aura 50 enfants qui vont venir avec 4 accompagnatrices. Donc c'est des jeunes femmes ukrainiennes qui sont pour la plupart professeurs de français ou des choses équivalentes. Et qui accompagne les enfants et qui donc aide au suivi des enfants qui sont là pour aider les familles s'il y a des problèmes de traduction, etc. évidemment, hein, et donc qui assure une permanence et donc il y a pour les familles une possibilité d'être aidé en 24 heures sur 24. Il y a moyen, s'il y a une urgence, de trouver quelqu'un qui va pouvoir parler à l'enfant, lui expliquer les choses, parce qu'évidemment, les premiers temps, la communication, elle est forcément un petit peu limitée, quoi.
Et puis, il y a un réel fossé culturel, parce que ce sont des familles pauvres et que ce sont souvent des enfants qui découvrent un ordinateur, par exemple, des patins roulettes. Il y a des choses qui nous paraissent, nous, assez anodines et qui sont magiques pour ces enfants. Donc, en fait, quand on parle de vacances, l'idée, c'est pas de les emmener dans un palace, c'est de les accueillir à la maison de façon simple et de leur offrir du temps et des activités ludiques, des promenades à vélo, des baignades, tout simplement.
Exactement. En fait, ce qu'on dit souvent aux familles, c'est faites comme vous feriez avec vos enfants ou vos petits-enfants. Faites des choses simples, allez-y. Alors vous pouvez faire une sortie sur un parc aussi, pourquoi pas, c'est bien aussi, mais il n'y a pas besoin de faire un gros programme parce que de toute façon pour ceux qui viennent pour la première fois, donc sur les 50 enfants il y en a 27 de mémoire qui sont des enfants qui sont déjà venus l'an dernier et donc ils reviennent parce que eux sont d'accord pour revenir et les familles d'accueil sont d'accord pour les réaccueillir. Et il y en aura donc une vingtaine, 23 qui sont des enfants qui viennent pour la première fois. Et donc pour ces enfants, il faut toujours se souvenir, c'est des enfants qui viennent dans un pays qu'ils ne connaissent pas, chez des gens qu'ils ne connaissent pas, qui parlent une langue qu'ils ne connaissent pas, qui mangent des choses qu'ils ne connaissent pas. Donc ça fait beaucoup, beaucoup d'inconnus. Mais les choses se passent la plupart du temps, se passent très, très bien. Parce que, en fait, ce qu'il faut, quand on accueille un enfant comme ça, c'est simplement être disponible, de lui donner un peu d'affection. Et 9 fois sur 10, enfin, pour pas dire 999 fois sur 1000, ça marche très bien.
Et de gérer aujourd'hui aussi, j'allais dire, ce traumatisme de la guerre, ces enfants, aujourd'hui, ils viennent, vous le disiez, de familles pauvres, de milieux ruraux, mais en plus, ils ont connu la guerre.
Exactement. Alors aujourd'hui, dans les villages concernés, ne sont plus occupés par l'armée russe. Ils l'ont été à peu près pendant 2 mois au début de la guerre, puis a été libéré par l'armée ukrainienne. Mais le traumatisme est là. Et puis même si dans leur village c'est pas la guerre est partout en Ukraine malgré tout. De temps en temps, il y a quand même encore, il y a des missiles qui passent au-dessus de leur tête, même s'ils ne sont pas visés, parce qu'il n'y a pas grand-chose à viser dans le coin où ils sont. Mais les missiles passent, ils les entendent, et ils ont évidemment aujourd'hui, ils n'ont pas tous des ordinateurs, mais toutes les familles pratiquement ont un téléphone. Et donc Internet, ça s'est quand même beaucoup diffusé, popularisé, et donc les infos, ils les ont, les infos de ce qui se passe au quotidien. C'est le truc est là, quoi. Le traumatisme, il est forcément présent. Alors chacun le vit différemment. Donc l'an dernier, c'était une de nos crainte, au moment de l'accueil, c'était de voir, est-ce qu'il y aurait des sous. On n'a pas eu de problème spécifique par rapport à ça, qu'on a pu identifier vraiment lié à ça. Mais c'est clair que c'est dans la tête de tout le monde.
Albert Lutz, je rappelle, vous êtes membre du conseil d'administration de l'association Les Enfants de Tchernobyl. le nerf de la guerre, c'est l'argent. Aujourd'hui, alors le nerf de la guerre, le jeu de mots est peut-être un peu malheureux, mais aujourd'hui, pour l'accueil de ces enfants et pour mener des actions, vous avez besoin de financement. Vous le financez, entre autres, avec l'opération 10 000 œufs pour Tchernobyl. Ce sont des œufs en bois que vous vendez sur différents points de vente. L'opération, elle a commencé ?
L'opération va commencer la fin de semaine.
Alors, ces œufs en bois, l'idée, c'est de les vendre pour financer, vous, des actions et pour financer l'accueil des enfants.
Exactement. La vente des œufs en bois est depuis toujours, en fait, la ressource principale de l'association. C'est la source principale de financement de l'association, ce qui donne à l'association une indépendance par rapport aux politiques, par rapport à tout ça. On est tout à fait complètement indépendant. On ne touche pas de subventions publiques. Donc on est entièrement libre d'agir voilà comme on le souhaite. Et donc cet argent sert à financer les accueils des enfants, mais ça sert aussi à financer les interventions qu'on fait sur place, c'est-à-dire à l'aide de nos amis ukrainiens. On fait de l'aide alimentaire, ce qu'on appelle de l'aide alimentaire, c'est-à-dire que à peu près tous les deux mois, on va livrer. Donc on va acheter en gros à Kiev, chez des grossistes, on achète de la marchandise, donc de la nourriture, quelques produits d'hygiène, etc., qu'on emmène donc dans les villages et on distribue à toutes les familles, donc un peu plus de 250 familles, auxquelles on distribue des colis alimentaires à peu près tous les deux mois. À côté de ça, il y a une autre opération importante qui est l'action sanitaire. Et l'action sanitaire, elle se traduit par de l'aide à deux hôpitaux avec lesquels on travaille depuis très longtemps, depuis de nombreuses années, et auxquels on fournit des médicaments et du matériel médical. On a l'an dernier fourni pour 100 000 euros de matériel médical à ces hôpitaux. En fait, on leur fournit ce dont ils ont besoin. C'est-à-dire que on travaille avec une fondation, la fondation Medeor, qui est une ONG allemande qui fabrique, fournit et distribue du matériel médical aux associations, aux ONG, et donc à prix coûtant. Ce qui permet, avec le même argent, évidemment, d'avoir des volumes beaucoup plus importants. Et donc, ils ont une liste de ce qu'ils peuvent fournir. On la fournit à l'hôpital qui nous fait une commande, entre guillemets. Et après, on envoie directement à l'hôpital cette commande de marchandises, de médicaments, etc.
Aujourd'hui, vous vous rendez encore sur place en Ukraine ?
Alors aujourd'hui, depuis la guerre, on peut pas se rendre en Ukraine. De toute façon, c'est fortement déconseillé par le gouvernement. Enfin voilà, si vous allez sur le site des affaires étrangères, c'est fortement déconseillé de se rendre. Donc on a la chance d'avoir un réseau en Ukraine. D'amis qui nous aident et qui, sur place, organisent tout ça. Quoi.
Albert Lutz, ma dernière question, elle est un peu habituelle pour les gens qui sont engagés comme ça. C'est quoi, vous, votre motivation ?
Oh ben c'est aider. En fait, moi j'ai toujours été bénévole dans des choses. J'ai des associations sportives. J'ai toujours été. J'ai également été responsable syndical. Enfin voilà. Donc j'ai toujours eu un petit peu une fibre solidaire. Et pour ce qui concerne les enfants de Tchernobyl, en fait, ça a commencé tout simplement parce qu'avec mon épouse, à un moment donné, on s'est dit, tiens, pourquoi on serait pas famille d'accueil, quoi. Et donc, c'était en 2014. Et donc, on a accueilli la première fois en 2014, et donc la fillette qu'on a accueillie en 2014, aujourd'hui elle va avoir 21 ans, et ça fait presque 2 ans qu'elle est réfugiée chez nous suite à la guerre.
Oui.
Et donc et qu'elle prépare, elle se prépare pour vivre en France. Elle est apprentie aujourd'hui, et donc
Et elle est sous votre protection à vous.
Pour l'instant, quand la guerre a commencé, on l'a contactée, on lui a dit, écoute, si tu veux venir, tu viens quand tu veux. Et bon, au début, elle disait, non, tout va bien, on se cache dans la cave, ça va, on se cache, tout va bien. Et un jour, elle me téléphone, elle me dit, demain matin, je pars. Et en fait, la maison de son amie et voisine venait d'être bombardée. Et ça a été le déclencheur. Et donc, elle est arrivée quelques jours plus tard. Et voilà.
Et aujourd'hui, le lien est plus fort.
Elle fait partie de notre famille. Hein. C'est un petit peu une fille supplémentaire dans la tribu, quoi.
Merci Albert Lutz. Donc je rappelle, vous faites partie de l'association Les Enfants de Tchernobyl. L'opération 10 000 œufs pour les enfants de Tchernobyl va commencer là dans quelques jours dans différents points de vente. On mettra peut-être un lien où on peut retrouver pour les gens qui ont envie de s'en procurer. C'est joli, hein, que ce soit pour Pessard ou que ce soit pour Pâques. C'est une jolie déco en centre de table. Merci en tous les cas d'être passé nous voir. Merci pour votre implication et votre engagement. J'aime remercier les gens qui s'engagent parce que c'est vrai qu'on oublie souvent. Alors je sais que les gens qui s'engagent souvent disent le merci, on l'a tout court parce qu'on est déjà, on reçoit autant qu'on donne souvent. Mais quand même, c'était important de le dire. Merci à vous.
Merci à vous.
L'invité de la rédaction. Valérie Vial.